J'ai bien aimé ce chant parce qu'il fait un peu le contre-pied de ce que je voulais apporter cet après-midi, dans le sens où Dieu nous amène à nous positionner nous-mêmes. C'est ce que nous allons voir à la conclusion de ce message. Dieu demande de nous une position personnelle. Et j'avais à cœur de parler des mouvements de foule. La foule, quelque part, dans les évangiles, est presque un personnage. C'est presque un personnage, la foule. Souvent, on voit dans les évangiles, la foule ceci, la foule cela. Et je m'en suis venu à poser des questions, même dans notre vie de tous les jours. Nous vivons dans un pays où c'est le peuple qui décide, c'est la démocratie. Je me suis posé la question, est-ce que la majorité a-t-elle toujours raison? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il faut toujours faire confiance au plus grand nombre? Est-ce qu'il faut toujours se fondre dans la masse, être tranquille? Est-ce qu'il faut être dans le courant? Est-ce qu'il faut être dans la mode, s'il faut parler des vêtements, par exemple? Est-ce que c'est le signe de quelque chose de... Ou est-ce qu'il faut se démarquer? Ou est-ce qu'il n'y a pas forcément de position à prendre? C'est quand même intéressant de regarder. Et j'ai eu à cœur de relever quelques textes. On va lire un peu dans la parole quelques versets qui montrent comment la foule se comporte. Le premier texte que j'ai relevé, c'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 4 et au verset 30. Le ministère de Jésus-Christ va commencer. Jésus va faire pratiquement sa première prédication. Et au verset 30, nous lisons ceci. Luc 4, 30. On va lire même verset 28. Nous l'avons lu ce matin d'ailleurs. Ils furent tous remplis de fureur dans la synagogue lorsqu'ils entendirent cela. Ils se levèrent, le poussèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, s'en alla. Première chose que la foule fait, une des premières choses que la foule fait en regard de Jésus, c'est qu'elle essaye de le tuer. Vous allez voir, vous allez être surpris quelque part. Oui et non, vous êtes surpris et pas surpris, parce que les mouvements de foule, on les connaît, et comme on le dit, la foule est versatile. Premier point de vue, la foule cherche à supprimer Jésus, parce qu'il dit des choses qui dérangent, qui mettent mal à l'aise. Allons un petit peu plus loin, verset 6. Chapitre 6, pardon, verset 19. Je lis ceci, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. La même foule qui voulait tuer Jésus se retrouve dans une autre situation et veut obtenir la guérison. Et grâce à Dieu, il n'est pas rancunier. Dieu nous aime. Dieu nous aime à tel point que même si derrière on ne comprend pas ce qu'il fait pour nous, il y a des tas de personnes qui ont été guéries dans les évangiles, qui nous sont montrées. Et pourtant, combien ont cru ce qu'il disait? Or, ce que Jésus est venu faire sur la terre, c'était d'abord pour transmettre un message et pas pour apporter des guérisons. Jésus est venu d'abord transmettre un message important, un message qui nous parle, celui qui a été rejeté justement par les Juifs, c'est que Jésus est le sauveur du monde. Et c'est volontairement que je dis au présent, parce que l'œuvre de Jésus n'est pas dans le temps. Jésus est mort sur une croix pour nous sauver, pour nous réconcilier avec Dieu, parce que l'homme naît dans le péché. Et sans l'œuvre de Jésus à la croix, nul ne peut obtenir le salut. Parce que le salut ne s'obtient pas par nos efforts, par nos œuvres. Il s'obtient uniquement par la grâce de Dieu. Et Jésus est venu d'abord sur cette terre pour donner ce message. Pour dire qu'il venait pour ça. Qu'il venait pour que l'homme qui est pécheur dès le début soit réconcilié avec Dieu. Et là, nous avons affaire à une foule qui n'écoute pas tellement le message de Jésus, mais par contre qui a bien vu que Jésus opérait des miracles et que par Jésus il y avait des guérisons. Alors beaucoup sont venus auprès de lui. Et juste après, Jésus va donner quelques enseignements, parce que ceux qui ont obtenu la guérison, malgré tout, ont fait un acte de foi. C'est par la foi que la Bible dit que nous vivons, mais tout ce que nous obtenons de Dieu l'est aussi par la foi. Autrement dit, une guérison s'obtient par la foi. Dans ma vie, j'obtiens le repos, la paix par la foi. La foi, c'est quoi ? La foi, c'est de m'assurer, de prendre appui sur, pas les œuvres de Jésus, mais sur ses paroles. Sur le fait qu'ils disent qu'il est le sauveur du monde, sur le fait que dans la parole il est écrit que celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Sur cette base-là, je crois à cette parole et j'obtiens mon salut. Sur la base que dans la Bible il est écrit que par ses meurtrissures nous sommes guéris, je peux obtenir la guérison. Mais la base reste ses paroles, la parole de Dieu. Et juste après, Jésus commence à donner un enseignement et là on va observer une foule qui écoute Jésus parler. Et au verset 28, qui est même frappé de cet enseignement. C'est dans Matthieu 5, mais il s'agit du même passage. Dans Matthieu 5, on a la réaction de la foule à cet enseignement de Jésus qui dit, je cite que le verset 3, Matthieu 5, verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Que veut dire cette phrase ? Elle semble mystérieuse, mais elle veut dire quelque chose de très simple. C'est que pour obtenir le salut, il faut que je me reconnaisse comme ayant besoin de la grâce de Dieu. Il faut que je reconnaisse ma pauvreté devant Dieu. Oui, ce n'est pas par mes œuvres qui pourrait être une certaine richesse. Avoir la richesse de pratiquer une religion, avoir la richesse de faire des œuvres, de participer à telle ou telle œuvre sociale, caritative, avoir la richesse de pouvoir dire que nous aidons une mamie ou une veuve dans notre entourage, etc., etc. Combien de richesses on peut avoir ? La Bible nous dit que ce sont les pauvres. Ce sont ceux qui ne s'appuient pas sur ces richesses-là, parce que ces richesses-là sont des roseaux cassés qui vont nous transpercer la main quand nous nous appuierons dessus. Ces efforts-là ne mènent à rien sinon à la mort. Parce que seule l'œuvre de Jésus est valable. Seule l'œuvre de Jésus est valable. C'est le seul point d'appui possible. Et pour cela, il nous faut nous reconnaître pauvres, mettre toutes ces richesses factices de côté et dire « Oui Seigneur, pardonne-moi parce que je n'ai rien. Je viens tel que je suis, sans rien à moi. Je suis pauvre. » Et j'ai besoin de la grâce. Et quand on se reconnaît pauvre, alors Dieu peut agir. Et Dieu peut nous donner sa grâce. On a là une foule qui comprend pas cet enseignement. Et au verset 28, je crois que c'est le verset 28. Non, c'est pas le verset 28. C'est au chapitre 7. Chapitre 7, verset 28. Quand Jésus eut achevé ses discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme leurs scribes. À l'époque, ils se référaient toujours à des plus grands qu'eux. Jésus est fils de Dieu et ils n'avaient pas besoin de se référer à qui que ce soit. C'est pour ça qu'on trouve dans l'évangile « Moi, je vous dis », parce que Jésus parle en tant qu'autorité suprême. Jésus est l'autorité suprême, il est la parole. La foule écoute, elle est frappée de cet enseignement, mais pour autant n'est pas forcément touchée. Au chapitre 8 de Matthieu, on voit une foule qui est attirée par les miracles. Je voulais noter le verset, mais je ne l'ai pas noté. C'est pas grave. La foule est attirée par les miracles de Jésus. On peut regarder un miracle dans l'évangile de Jean, chapitre 6. Évangile de Jean, chapitre 6, là va avoir lieu un miracle. Tous les miracles sont extraordinaires, mais quand la matière commence à se multiplier, ça devient quand même du haut niveau quand même. À partir de 5 pains et 2 poissons, Jésus nourrit une foule, sans compter les femmes et les enfants, de 5000 hommes. La foule est là nombreuse. On l'a au verset 2, ce que je disais juste avant. Jean 6, verset 2. Une foule nombreuse le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. On voit le mobile de la foule. Ce n'est toujours pas les paroles de Jésus, c'est ce qu'il fait. Et à la fin de ce miracle, on a, alors que cette foule voulait le tuer au début de son ministère, on voit qu'à la fin de ce miracle, on voit autre chose. On voit une foule qui cherche à faire de Jésus un roi. Verset 14. Ces gens, à la vue du miracle que Jésus avait fait, disaient « Vraiment, c'est lui le prophète qui vient dans le monde. » Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Une foule qui change d'avis. Une foule qui retourne sa veste sans arrêt. Une foule versatile. Verset 24. On est toujours dans Jean 6. Jésus s'est retiré, Jésus est allé de l'autre côté du lac, et là nous voyons une foule qui a perdu Jésus. Quand les gens de la foule virent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent eux-mêmes dans ses barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et ça, c'est peut-être une question qu'on pourrait se poser cet après-midi. Est-ce que j'ai perdu Jésus ? Est-ce que j'ai perdu Jésus ? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, avoir perdu Jésus ? L'avoir connu un jour, avoir connu peut-être ce qu'il nous disait, avoir même connu sa parole, avoir fait des expériences avec Dieu et s'être perdu dans ce qui nous attirait dans ce monde, avoir nos yeux fixés sans cesse sur ce monde, au lieu de nous rappeler qu'il y a un Dieu qui nous aime. Au lieu de compter sur sa grâce, on commence, on repart en regardant par terre et en comptant sur nos propres forces. Et à nouveau, on s'enfonce. À nouveau, on recherche la paix dans des choses qui ne nous donnent pas la paix. À nouveau, on cherche de la joie dans des choses qui ne nous donnent pas la joie. Et on se retrouve le soir seul dans notre chambre et on se dit, à quoi bon ? On est tout seul face à nous-mêmes. Et la paix n'est toujours pas là. La joie n'est toujours pas là. Le bien-être n'est plus là. On n'a jamais vu autant de centres de bien-être autour de nous. Et pourtant, les gens, ils ont un mal-être perpétuel. On est peut-être la génération la plus riche et avec le plus de mal-être qu'on ait jamais vu. Alors que d'autres populations qui ont bien moins que nous sont dans une situation différente et ont un bien-être que nous, nous n'avons pas. C'est paradoxal, mais c'est la réalité. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on en est là ? On a perdu Jésus. On a perdu la foi. On a perdu les vraies valeurs. On a perdu les choses que Dieu nous avait données au départ, mais on les a rejetées. Non, on sépare l'État, l'Église, on sépare les choses de Dieu, ça ne nous intéresse pas, on va essayer de faire sans. Moi, je crois en la science, je ne crois pas en Dieu. Mais la science, qu'est-ce qu'elle nous prouve ? Est-ce que la science nous donne le bonheur ? Est-ce que la science nous donne la paix ? Et pourtant, la parole n'est pas contre la science, elle la confirme. Et quand on reste campé sur nos positions, campé sur nos raisonnements, c'est ainsi qu'on vient à perdre Jésus. Dieu a-t-il réellement dit ? Est-ce que c'est vrai, après tout ? C'est un livre. Est-ce que c'est la réalité ? Pourtant, la Bible est la parole de Dieu. C'est ce qu'il nous a laissé. C'est ce qu'il nous a laissé pour qu'on puisse le connaître, pour qu'on puisse savoir à quel point il nous aime, pour qu'on puisse savoir à quel point il a tout fait pour qu'on puisse être auprès de lui. Et combien l'homme a aussi tout fait pour être loin de Dieu. C'est la triste réalité. C'est un livre qui parle des hommes d'il y a tant d'années. Et pourtant, dans l'humanité d'aujourd'hui, on en est toujours au même stade. L'homme rejette Dieu. Pourquoi ? Parce que l'homme veut se mettre à sa place. Parce que l'homme veut se considérer Dieu lui-même. L'homme se dit qu'il veut diriger sa propre vie. L'homme se dit qu'il n'a pas besoin de se soumettre à qui que ce soit. Et sans le savoir, il est esclave de ses propres pulsions, de ses propres péchés, de sa propre nature, qui a réussi, ne serait-ce qu'une année, à tenir ses bonnes résolutions du 1er janvier. Personne. Pourquoi ? Parce qu'on a une nature qui nous empêche d'obéir à une loi. On est rebelle en nous. On est tous pareils et on a tous besoin de la grâce de Dieu. Je reviens à cette foule qui a perdu Jésus. Elle a perdu Jésus au verset 24. Et au verset 26, on va lire autre chose. On va quelques versets plus loin. Et on en revient à la même chose. C'est Jésus lui-même qui le dit. Il s'adresse à la foule qui l'a retrouvé. « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Les miracles donc, que Jésus parle, ça veut aussi dire des signes. Et ce que Jésus voulait dire par là, ce n'est pas le sens de ce qu'il fait, mais simplement le fait d'avoir mangé, d'avoir été rassasié. D'ailleurs, Jésus le confirme au verset 27. « Travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. » C'est exactement la raison pour laquelle le miracle de la multiplication des pains a eu lieu. C'est exactement ce que Jésus voulait qu'ils comprennent. Les gens voulaient qu'ils comprennent qu'avec juste une seule personne brisée, un seul pain brisé à l'origine, une foule peut être nourrie. Jésus a été brisé. Le pain a été rompu. Le pain de vie a été rompu. Jésus a été brisé sur la croix. Et c'est le seul par lequel une multitude, une foule, peut obtenir le salut. C'est le seul brisement possible qui permet ensuite à la multiplication de s'opérer. Seul Jésus pouvait nous obtenir la réconciliation avec Dieu. Et ce message, la foule ne l'a pas reçu. Et Jésus le leur dit clairement l'explication de ce miracle. Tout miracle que Jésus fait a un sens. Ce n'est pas seulement des faits extraordinaires. Tout miracle que Jésus accomplit a poursuivi un but bien précis qui est de faire passer un message, un enseignement particulier, parce que miracle, ça veut aussi dire signe. Et quand qui dit signe, ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse, qu'on essaie de savoir pourquoi ça a eu lieu. Le miracle de la multiplication des pains annonce la naissance de l'Église, annonce la naissance de ce que les hommes puissent devenir suite au sacrifice de Jésus à la croix. On en revient toujours là. Ce pain brisé, c'est Jésus à la croix qui a été brisé pour nous. On continue. On voit toujours la foule au verset 66. Comment la foule réagit à tout ce message ? Elle n'accepte pas ce message. Verset 66. « Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. » Le texte nous montre pas très bien. Enfin, Jésus, juste après, dit aux douze, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Il faut savoir qu'il y a eu un mouvement de foule d'abandon total. Parce que la foule n'a pas accepté l'enseignement de Jésus. Et Jésus s'est retrouvé seul avec ses disciples, et Jésus leur dit, « Et vous, vous ne voulez pas partir aussi ?» C'est ça qui s'est passé. Ils se sont tous retirés, la foule s'est retirée, elle n'a pas accepté cet enseignement. La foule veut bien des miracles, elle veut bien bénéficier des grâces de Dieu, elle veut bien avoir la guérison, elle veut bien avoir les bénédictions, mais quand il s'agit de réfléchir à la réalité du péché, on ne veut plus réfléchir à ces choses. Or, Dieu nous avertit parce qu'il nous aime. Si vous avez quelqu'un, un ami proche, qui prend une mauvaise direction, vous savez qu'il allait se planter royalement, qu'est-ce que vous allez faire ? Si c'est un ami auquel vous tenez, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez dire, mais attention, fais gaffe, si tu vas dans cette direction, tu vas te tromper. Le but n'est pas de faire du mal à la personne. Le but, c'est de lui dire qu'elle prend une mauvaise direction et que si elle persiste dans ce choix, elle va se perdre, elle va se faire du mal. Il y aura de tristes conséquences. Et ce que la Bible dit, quand elle nous dit que nous sommes dans le péché, quand la Bible nous dit que si nous continuons sans accepter l'œuvre de Jésus à la croix pour nous, nous serons perdus pour l'éternité et nous devrons un jour rendre compte à Dieu de quels auront été nos choix de notre vivant. Si Dieu nous dit ça, si Dieu nous informe de ces choses dans sa parole, c'est pas pour nous faire peur, c'est pour nous dire, parce qu'il nous aime, parce qu'il nous veut auprès de lui. Tout l'évangile, toute l'œuvre de Jésus est une marque de son amour de Dieu pour les hommes. La foule n'a pas reçu ça. On a une partie de la foule qui est partagée, verset 12 du chapitre 7. Et il y avait dans la foule beaucoup de murmures à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien, mais d'autres disaient, non, au contraire, il égare la foule. Les gens ne sont pas d'accord. Ils ne savent pas quoi dire sur Jésus. La foule est complètement perdue. Nous avons un personnage qui est complètement perdu dans ses raisonnements. Ne sait plus quoi penser. C'est ce qui se passe dans notre cœur quand on ne veut pas vraiment se remettre en question. On sent bien qu'il y a quelque chose de vrai dans ce que nous entendons, mais en même temps, il y a nos raisonnements qui sont là. Il y a tout ce en quoi on croyait jusqu'à aujourd'hui qui est toujours là et qui dit « Mais quand même, ça fait 20 ans que tu crois ça et aujourd'hui tu vas changer d'avis ? Tu vas changer de position ? Mais comment ?» Et en nous, il y a ce combat, il y a cette lutte intérieure. On ne sait plus quoi faire. La foule était dans cet état-là. On est partagé. Et Dieu nous invite à prendre position. Regardez le mouvement de la foule, la versatilité de la foule. Évangile de Marc, on va changer de livre. Évangile de Marc, au chapitre 10. Pourquoi j'ai choisi encore ce passage ? C'est pour montrer que le positionnement que nous devons prendre, c'est pas, on n'a pas à se soucier du regard des autres. C'est quelque chose de personnel, absolument personnel. Et alors que peut-être il y a ce combat intérieur dans notre cœur, il nous faut prendre position. Et le regard des autres, eh bien, chacun son regard, chacun son combat. Mais moi, devant Dieu, comment je réagis ? Alors, dans Marc, au chapitre 10, on a une histoire très intéressante. Parce qu'on a justement affaire à quelqu'un qui, dans son cœur, a pris position, quelle que soit la position de la foule. Mais c'est intéressant de regarder la foule dans cette histoire. On va la lire en entier, cette histoire. Marc 10, verset 46. « Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David !» Non, il n'a pas dit Jésus de Nazareth, hein, il a dit « Fils de David !» C'est quelqu'un qui avait bien compris qui était Jésus. C'est quelqu'un qui avait compris que Jésus était le sauveur du monde. C'était celui par lequel on allait pouvoir être réconcilié avec Dieu. C'est celui par lequel on aurait pu obtenir la guérison. C'est celui par lequel on pourrait obtenir la grâce de recevoir la paix dans notre cœur. Bartimée avait compris ça. Il était aveugle de ses propres yeux, mais spirituellement, il voyait bien clair, comparé à la foule. On continue. « Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire. Mais il criait d'autant plus, « Fils de David, aie pitié de moi !» Vous avez vu la foule, ce qu'elle fait ? Arrêtez, tais-toi. Qu'est-ce que Jésus va s'occuper de toi ? Non, il va pas s'occuper de toi, tais-toi. Voilà la foule. Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » C'est beau quand même. Hein. Moi, je trouve ça merveilleux, cette foule qui, en 2 secondes, retourne sa veste comme ça. Elle le met sur le bord du chemin, le repousse, et après, on va le voir et on lui dit, « Allez, prends courage, il t'appelle. » La foule, la versatilité de la foule. La versatilité du regard des autres. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche du regard des autres ? Le problème, c'est moi. Le problème, c'est ce que moi, comment moi, je me positionne avec Dieu. Que X ou Y me regarde me lever à l'appel ou pas, qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Excusez-moi l'expression, mais c'est ça. La foule ne sait pas où elle en est. Regardez la foule encore, qui est complètement perdue. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21 et au verset 8 et 9, regardez ce qu'on lit. Les foules précédaient. Et suivez Jésus en criant « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi et l'on disait « Qui est celui-ci ? » Alors ça, c'est quand même fou. C'est le fils de David et en même temps, ils disent « Qui est celui-ci ? » Vous aviez jamais fait gaffe ? Hosanna au fils de David, un verset plus tard, « Qui est celui-ci ? » Jésus vient à Jérusalem sur un ânon, et il vient à Jérusalem, quand il rentre à Jérusalem, il rentre comme un roi, c'est vrai. Et les Juifs, ça les a marqués forcément, parce qu'ils croyaient que celui qui allait délivrer Israël des Romains était là. Ils n'avaient pas compris que Jésus venait en tant que roi suprême, en tant que sauveur du monde et pas sauveur d'Israël, pour mourir et donner sa vie pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. La foule était complètement perdue. Hosanna au fils de David. Qui est celui-ci? C'est incroyable. La foule est complètement perdue. Jean 19, 15. On voit quand même que la foule a bien accueilli Jésus. Regardez 3 jours plus tard. Ça s'est passé 3 jours plus tard. Évangile de Jean, chapitre 19, verset 15. Mais ils s'écrièrent, à mort, crucifie-le. Voilà la foule qui change encore. 3 jours plus tôt, elle accueille le roi, celui qu'elle considère au rang social numéro 1. Et 3 jours plus tard, elle demande la mort par crucifixion, ce qui signifie le rang social numéro le plus bas possible. En 3 jours, Jésus est descendu dans l'échelle sociale de la tête aux pieds. Voilà la foule dans toute sa splendeur. La foule n'a pas reconnu Jésus. La foule est complètement passée à côté. C'est pour ça, cet après-midi, j'aimerais qu'on puisse nous encourager à réfléchir, à nous examiner nous-mêmes en regard de ce message. Dieu aime l'humanité tout entière. Et si Dieu a permis que Jésus meure sur cette condamnation, c'est parce que Jésus était d'accord de mourir. Jésus est venu pour mourir pour nous. Parce qu'il n'y avait que par sa mort qu'on peut être pardonné de nos péchés. C'est le seul message. C'est pour ça que Jésus a pu prêcher ce qu'il a prêché. C'est pour ça qu'il a pu prêcher la délivrance. Parce que la délivrance, il savait qu'il allait mourir sur la croix pour nous. Et cette mort sur la croix, elle est universelle. Elle n'a pas besoin d'être renouvelée. Elle n'a pas besoin chaque dimanche de faire mourir Jésus à chaque fois, comme cela est fait dans certaines religions. Tous les dimanches, on fait mourir Jésus parce qu'on croit que le bout de pain, le peu de vin qu'on prend se transforme en chair et sang de Christ. Et du coup, tous les dimanches, il meurt. Mais à quoi il sert ce sacrifice? Un sacrifice parfait. Il a lieu une et une seule fois, et on n'en parle plus. Dieu, il est éternel. Dieu, quand il fait quelque chose, il n'a pas besoin de s'y reprendre à plusieurs fois. Le sacrifice de Jésus est le seul et unique par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est la preuve de l'amour de Dieu. Regardez cette triste conclusion concernant la foule. Là, on va passer dans Luc. Au chapitre 19 et au verset 44. C'est une conséquence, c'est pas une punition, c'est une conséquence de ne pas avoir cru. C'est une conséquence de ne pas avoir considéré les paroles que Jésus leur avait données. C'est des conséquences de leur propre choix. Au même titre que si je roule au-delà de la vitesse limite et qu'il y a un radar, je vais me faire flasher. Qui est le responsable? C'est le conducteur. C'est pas la loi. Même si c'est 80 km/h. Et la foule se retrouve sous cette même condamnation. Verset 44. Ils t'écraseront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jérusalem a été rayée de la carte. Suite à la venue de Jésus. Jésus avait prédit que le temple juif serait complètement détruit. Et en l'an 70, le temple a été détruit. Jésus a dit que pas une seule pierre ne resterait l'une sur l'autre, et le temple a été littéralement rasé. Et aujourd'hui, les Juifs voudraient encore le reconstruire. On en est là. Mais cette parole, elle parle pour nos vies. Il faut considérer cette parole pour nos propres vies. S'il y a ces avertissements, c'est une fois de plus, c'est parce que Dieu nous aime et il voudrait nous épargner. Il nous faut nous approcher de Dieu. Je terminerai par ce texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 20. Jean, chapitre 20, verset 21, et on se retrouve... non, c'est Jean 21, d'ailleurs, je crois. Jean 21, verset 20. Pierre se retourna et vit venir à leur suite le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Jésus avait annoncé à Pierre comment il finirait sa vie. Et l'apôtre Pierre commence à regarder autour de lui et Jésus lui rappelle que l'important, c'est pas le regard des autres, c'est pas la vie des autres. Ce qui est important, c'est mon cas personnel. Toi, suis-moi. Tout ce message, il a ce but. Dieu nous annonce que nous sommes perdus, mais qu'il y a une solution dans le sacrifice de Jésus à la croix. Demandez à Dieu de comprendre ces choses. Demandez à Dieu de réaliser ce qu'il y a vraiment, comment Dieu vous voit. Faites cette prière à Dieu et repentez-vous pour votre péché. C'est le seul moyen d'obtenir la grâce de Dieu. C'est le seul moyen d'être réconcilié avec Dieu. J'aimerais qu'on se recueille quelques instants. J'ai prêché sur ce thème de la foule parce que j'avais à cœur de faire cet appel. J'avais à cœur que cet après-midi, tu te positionnes. À travers tout cet exposé, tu as pu te rendre compte que le regard des autres, il ne vaut pas bien lourd. Alors je fais cet appel cet après-midi. Est-ce que oui ou non, tu veux aller plus loin avec Dieu ? Est-ce que oui ou non, tu veux apprendre à le connaître plus ? Est-ce que oui ou non, tu réalises que tu as besoin de sa grâce et tu veux lui demander pardon pour tes péchés. Tu voudrais que Dieu te montre à quel point tu n'as peut-être pas tout compris, tu n'as peut-être pas bien tout compris ce que c'est que le péché, etc. Mais Dieu peut t'éclairer et tu peux lui demander simplement à travers une prière. Nous allons reprendre le chant qu'on a chanté juste avant. Tel que je suis, sans rien à moi, je ne m'occupe pas du regard des autres. Je ne m'occupe pas de ceux qui m'entourent. Toi, suis-moi, te dit le Seigneur, parce que c'est pas un ordre, c'est un conseil. Parce que le Seigneur veut nous épargner des choses terribles. Il veut nous montrer tout son amour, il veut déverser tout son amour en nous. Il veut nous faire du bien, il veut te faire du bien cet après-midi. Il veut que tu fasses cette expérience avec lui. Il veut que tu puisses prendre ce nouveau départ avec lui. Mais il faut que tu t'approches. Alors pendant ce chant, je vais rester disponible à l'avant si vous voulez. Avancez-vous sur le devant et je prierai pour vous. C'est un acte de foi. C'est la manière de se positionner devant Dieu. Si jamais vous ne vous avancez pas, vous pouvez faire cette expérience dans votre cœur. Mais je vous encourage à le faire maintenant parce qu'en le faisant maintenant, il y a la foule qui est là justement. Et à Dieu, c'est un message que vous envoyez en disant la foule, je ne la regarde pas. C'est mon cas personnel que je veux régler. Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grâce. Et le simple fait de vous avancer sera une prière. Sera la prière que vous faites, que vous adressez à Dieu, qui demande à Dieu sa grâce pour votre vie.